Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Touchdown Actu. On continue les pastilles que vous avez tous les matins. La première partie vous avait été présentée par Grégory et Alexandre. On change un peu les équipes pour la deuxième fournée. Et je suis aujourd'hui avec Jean-Michel Boujard. Bonjour à toi.
Hey, salut Victor, ça va ?
Eh bien, ça va très bien, ça va très bien. On a un programme riche. Ce matin, ce sont les Steelers qui sont au programme. Et on a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a eu du mouvement, mine de rien, chez cette équipe. Donc, comme d'habitude, on va vous dire les principaux besoins. On va faire une petite mock avec des profils, expliquer un peu quels joueurs pourraient correspondre aux besoins d'équipe en fonction. Et on terminera évidemment avec notre petite pépite. Au niveau des besoins, on est assez d'accord sur les quatre besoins principaux. Le premier, c'est offensive tackle, puisque Villanueva à gauche est parti. Le deuxième, c'est running back. Il n'y a pas vraiment de départ, mais la réalité est que les Steelers étaient 32e l'année dernière en course. Le troisième, c'est cornerback, avec notamment Nelson qui a été cut. Donc là, la question, c'est qui pourrait être cornerback numéro 2. Et le quatrième, c'est centre, puisque Morky Spouncey a pris sa retraite après, j'ai plus exactement, mais quasiment une décennie de domination à ce poste. Donc clairement, là, ça fait partie des joueurs, ça fait un grand vide. Ça fait longtemps que les Steelers ne se sont pas posé la question de qui va être leur centre dans cette pour la prochaine saison. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et pour le premier tour, tu as donc adressé le besoin peut-être principal, celui de garde du corps côté aveugle de Ben Roethlisberger, celui de tackle gauche donc, avec un profil très intéressant qui est le tackle de North Dakota State, Dylan Raddins. Alors dis-nous, pourquoi tu imagines ce joueur comme étant un parfait fit pour le système Steelers ?
Ben voilà, comme tu l'as dit, ils ont besoin absolument d'un tackle offensif. Et pourquoi Randos ? Parce que ben, déjà, ils vont rater les trois meilleurs. Ils vont rater Sewell, ils vont rater Dariso, ils vont rater Slater. Mais Randos, attention, on en parle peu, mais c'est un excellent tackle. Alors, il est hyper athlétique. Il est un petit peu léger, mais finalement, c'est ce qu'ils avaient avec Villanueva. Quelqu'un de grand, de pas très costaud. Quelqu'un qui bouge très bien ses pieds. C'est quelqu'un qui est très bon en protection. Mais comme il joue à North Dakota State, une équipe qui courait beaucoup, il est aussi très efficace pour le jeu au sol. Notamment avec ses qualités athlétiques. C'est-à-dire que dès l'engagement, il prend rapidement l'avantage sur son opposant. Et puis, il ouvre des brèches. Et moi, il me fait penser à un joueur déjà en NFL. C'est David Bakhtiari, des Packers. Alors, je dis pas qu'il est déjà aussi fort, bien sûr que non. Bakhtiari, c'est un des tout meilleurs. Mais il a tout à fait ce profil-là, c'est-à-dire le tackle très athlétique, très mobile, qui est vraiment fait pour jouer à gauche en NFL.
Oui, je suis d'accord avec toi. C'est en effet l'interrogation, c'est qu'il joue dans un système très porté sur la course. Donc, on sait qu'il est excellent en course. Il est un peu plus brut, ou en tout cas non testé au niveau de la passe, mais ça restait quand même très bon. Ce qu'il a fait, il n'y a pas de problème. Il y a toujours la petite interrogation de quand tu viens de deuxième division, même si c'est North Dakota State, et on a expliqué plusieurs fois que c'était une université très prestigieuse, mais l'adversité n'est pas extraordinaire. Mais comme tu l'as dit, je pense que ça sera un vrai apport. Et on le disait, le jeu de course 32e l'année dernière. Si on peut avoir un joueur qui aide aussi sur ce domaine, ça soulagera Ben Roethlisberger, parce qu'il n'y a pas que la protection de passe qui va soulager notre cher ami Big Ben, mais s'il y a un jeu de course qui est performant, ça soulage beaucoup un quarterback. Donc c'est vraiment un point qui est excellent. Moi, j'avais sélectionné Samuel Cosmi comme alternative, qui est un excellent joueur dont on aura l'occasion de parler dans d'autres pastilles. La réalité, c'est que il y a beaucoup de très bons tackles qui peuvent être pris entre 15 et 30 et qu'à un moment, il y aura des choix à faire selon qui est disponible ou pas. C'est vrai que Radunz, c'est peut-être un de ceux dont on peut être le plus sûr qu'ils seront disponibles. Après, ça reste à draft, c'est quelque chose de difficile à prévoir. Au deuxième tour, et alors là, on va pas être d'accord. On est d'accord sur le poste. On est d'accord sur le poste, mais pas sur le profil. Tu nous as choisi Aaron Robinson. Donc j'aimerais que tu m'expliques pourquoi Aaron Robinson est un bon cornerback et pourquoi il serait un bon cornerback numéro 2 aux Steelers.
Ben parce qu'avec Central Florida, ça fait deux saisons qu'il est productif. En deux saisons, il a défendu 16 passes. C'est quelqu'un de relativement rapide, athlétique. Alors c'est quelqu'un qui jouait plutôt nickel pour défendre les receveurs dans le slot. Tu l'as dit tout à l'heure, les Steelers ont perdu Nelson, mais ils ont perdu aussi Mike Hilton. Donc Aaron Robinson pourra tout à fait jouer en nickel dès la première semaine. Et en même temps, c'est pas un nickel cornerback parce qu'il est petit. Il a tout à fait la taille pour jouer à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui, avec un coaching et un bon développement, peut jouer le poste à l'opposé de Joe Haden et peut-être même remplacer Joe Haden qui ne rajeunit pas. Donc pour moi, Aaron Robinson cause toutes les caches d'un cornerback au deuxième tour.
Alors moi, c'est là où j'ai un problème. C'est qu'on a toujours ce joueur qui est beaucoup plus haut chez nous que dans le consensus ou beaucoup plus bas chez nous que dans le consensus. Moi, Aaron Robinson, j'ai beau essayer de regarder, j'ai beau voir que tout le monde le met assez haut, je comprends pas. Je le trouve lent, mais alors, à se retourner, on a l'impression qu'à chaque action, s'il a en face de lui un receveur rapide, on a l'impression qu'à chaque action, il va se prendre une passe longue. Peut-être que c'est un biais, hein, parce que j'ai regardé quelques matchs, j'ai peut-être pas regardé les bons, mais en tout cas, c'est vrai que je suis d'accord, il a le physique pour l'extérieur, donc l'idée de dire il n'a joué que slot, c'est un faux débat. J'ai un peu plus de mal avec sa rapidité et avec, on va dire, sa capacité de réaction et sa capacité à se retourner. Donc moi, c'est vrai que j'étais parti sur un joueur que j'aime beaucoup plus, qui est excellent presse, qui est rapide, qui est intelligent, c'est Eric Stokes, que moi j'adore personnellement. Alors c'est pas un grand playmaker, hein, parce qu'il a 4 interceptions cette saison, mais vous irez les regarder, vous verrez qu'il n'a pas eu à se forcer pour les faire, mais vraiment moi c'est un joueur que j'ai au-dessus, et s'il est disponible, je prendrai largement devant Robinson. Dis-moi.
Oui, ben, s'il est disponible, moi je prends Stokes avant Robinson. Mais c'est ça, je le problème.
Qu'il ne sera pas.
Ben non, je pense pas. Je veux dire, on parle du deuxième tour, mais de la fin de deuxième tour. Donc, moi, je vois pas Eric Stokes disponible à ce choix-là des Steelers. C'est ça le truc, quoi.
Non, mais je comprends. Après, c'est vrai qu'Aaron Robinson, en soi, enfin, il y a un moment, je suis pas scout professionnel. Si tout le monde le trouve bon, c'est que j'ai juste pas réussi à voir le truc, hein, c'est tout. Mais c'est en tout cas un choix intéressant, parce que c'est un choix. On va dire que c'est un joueur dont on parlait peu au début de la saison et qui peu à peu arrive de plus en plus dans les discussions. On arrive au troisième tour. À un tour où il est raisonnable de prendre un coureur, pas comme le premier.
C'est ça, ouais.
Et donc, au troisième tour, on a pris celui qui avait créé le débat lorsqu'on avait fait le classement des coureurs. On l'avait mis sixième, mais on avait expliqué que c'était un peu plus compliqué que ça. C'est Shuba Hubbard. Donc, dis-moi pourquoi le coureur d'Oklahoma State est pour toi ton choix en troisième tour.
Ben déjà, parce qu'on parle de disponibilité. Parce que je pense que s'ils ne partent pas au premier tour, Najee Harris et Travis Etienne partiront au deuxième, à coup sûr. Je pense qu'au deuxième, il y aura aussi Javonte Williams, le joueur de North Carolina. Donc là, on est sur le troisième tour. En fin de troisième tour, qui sera disponible? Et je pense que Shuba Hubbard pourrait être disponible. Voilà un joueur que, s'il s'était présenté l'année dernière à la draft, aurait été justement parmi les meilleurs running backs choisis, les premiers running backs choisis. Il a fait une saison 2019 fantastique, une saison 2020 un petit peu moins bonne, et donc du coup, on a un petit peu des questions. Alors le joueur explique qu'il jouait un petit peu blessé, donc ça a limité un peu sa production. Mais l'un dans l'autre, Shuba Hubbard, ça reste un mix de taille, de puissance, de vivacité. Il a vraiment tout pour être un running back numéro 1 en NFL. Et donc je pense qu'au troisième tour, c'est un bon pari à prendre.
Non, je suis d'accord, moi je suis un peu inquiet sur ses fumbles. Mais c'est quelque chose qui peut se corriger parce que ça a l'air d'être plus un problème de placement des bras que vraiment un problème de physique ou autre. Moi, j'avais fait une alternative, mais alors là encore, ça dépend de la valeur que les gens donneront au poste de centre. Mais c'est vrai que s'il tombe, j'aurais bien vu Josh Myers. Donc, qui est un joueur puissant, qui est un joueur polyvalent, qui est un joueur explosif. Je pense qu'il n'est pas au niveau d'un Creed Humphrey, mais ça reste pour moi un excellent joueur, le centre d'Ohio State. Et si jamais il tombe, parce que les centres, ça peut tomber très vite, je pense que tu peux très bien choisir Myers au troisième tour, quitte à trade-up un petit peu, et choisir un running back plus tard, au quatrième ou au cinquième tour. Donc ça dépendra vraiment de qui est disponible. Mais c'est une stratégie possible.
Oui, Myers, c'est un très bon joueur. On l'a vu avec Ohio State et effectivement, avec la retraite de Pouncey, ils ont un besoin au poste. Après, ils ont fait revenir B.J. Finney. Donc, je suis pas certain que vraiment ils priorisent le poste de centre cette année, mais c'est possible, effectivement. Et ça serait un choix intelligent.
Tu as vraiment envie d'avoir B.J. Finney en titulaire, toi ?
Ah, ben écoute.
Non, je demande. Hein, moi, après, ouais. Je suis là pour poser des questions.
Ouais.
Et donc là, voilà, on a fait les trois premiers tours. Juste un petit mot dans les tours 4, 5, 6, 7. Un poste peut-être qu'on n'a pas évoqué, ou toi, tu penses qu'il faut rajouter de la profondeur, un poste qui serait intéressant pour eux à explorer.
Ouais, moi, je pensais au poste de Edge, parce qu'ils ont perdu Bud Dupree. Alors, bon, ils ont toujours TJ Watt, qui est extraordinaire sur un côté. Ils ont le jeune Alex Highsmith, qui montre de belles choses aussi. Donc, il n'y a pas d'urgence. C'est pour ça qu'on va en fin de draft. Mais je pense que c'est vraiment la position à laquelle tu penses pour un edge, quoi. En tour numéro 6, par exemple. Moi, je pensais à Janarius Robinson, de Florida State.
Parce que c'est un joueur... sleeper, ça.
Ouais, c'est mon sleeper, ma petite pépite, ma friandise. C'est un joueur qui est grand, qui est agressif. Alors, il était complètement perdu avec Florida State, puisque cette université a complètement coulé.
Mais ouais, il a quand même été... Tous les joueurs étaient perdus. À part Asante Samuel, ils sont tous perdus hein, cette année.
Mais même lui, il a été performant avec Florida State. Tu regardes ses matchs, tu le vois dans les matchs. Alors après, il est brut tactiquement. C'est vraiment un pari sur le potentiel. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un sleeper, que c'est pas un joueur des trois premiers tours. Mais il y a du potentiel. Et moi, je pense que ouais, en sixième, voire peut-être septième tour, ça serait un bon pari, Janarius Robinson.
Non, mais c'est clairement un besoin. Enfin, le départ de Dupree ne nécessite pas forcément d'avoir un nouveau titulaire. Tu l'as dit, il y a du monde. Mais d'avoir un peu de profondeur, un joueur qui peut créer le surnombre et la surprise. Et c'est en effet un très beau profil. Moi, du coup, je suis un peu ma logique où on était parti sur un centre au troisième tour et où, du coup, j'adresse poste de running back un peu plus tard. Et du coup, je vais vous parler de Larry Rountree, running back de Missouri, qui, malgré une ligne moyenne, malgré... un quarterback moyen malgré des coachs qui ont changé, etc., a toujours été performant. Toujours. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Alors par contre, c'est vraiment un coureur. Il n'est pas là pour recevoir le ballon. C'est pas son domaine. Ça. Mais pour le coup, vu les systèmes que peuvent avoir les Steelers avec des receveurs un peu hybrides, etc., est-ce que c'est grave de ne pas avoir un running back performant en third down? Je suis pas sûr, globalement. Donc, et puis, tu peux toujours compléter avec un joueur un peu plus puissant ou un joueur un peu plus habile de ses mains. Mais c'est un coureur sûr. Il n'est pas excellent, mais il est bon. Il est bon partout, il est constant, il réussira toujours les bonnes performances. Et du coup, c'est un joueur qui a prouvé qu'il avait la mentalité pour toujours être là, toujours réussir. Et il aura sa chance. Alors, peut-être pas... Là, c'est vrai que du coup, il se retrouverait presque leader du comité. C'est peut-être un peu trop grand pour lui dès la première année. Mais c'est un joueur qui peut apporter. sur first down, sur second down, et c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai une grande confiance personnellement.
Oui, c'est un bon joueur. Moi aussi, j'aime bien ce joueur, Larry Rountry. Et en plus, ça ferait un bon comité finalement, parce que le coureur puissant, ils l'ont déjà avec Benny Snell. Ils ont un coureur un peu plus vif aussi avec McFarland qu'ils ont pris l'année dernière. Donc, tu rajoutes Rountry, ça te fait trois bons joueurs. Donc, alors oui, tu n'as pas vraiment le running back numéro un extraordinaire, mais tu en as trois qui sont bons, qui sont complémentaires. Donc, ça pourrait tout à fait le faire.
Mais est-ce que dans la NFL d'aujourd'hui, tu as besoin d'avoir le running back? Ça, c'est une autre question, mais... Aujourd'hui, on voit que finalement, avoir un running back ultra dominant, à part peut-être l'anomalie d'Eric Henry, ça te change. Enfin, c'est pas ces équipes-là qui vont le plus loin.
Ouais, enfin, tu sais, l'année dernière, en 2020, il y a quand même 11 coureurs qui ont dépassé la barre des milliards. Et sur ces 11 coureurs, il y a donc 8 équipes qui sont allées en play-off, donc 8 sur 11. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir un coureur qui dépasse la barre des milliards, tu
Et
vois.
Et combien au Super Bowl?
Ah oui, d'accord, ok, on parle que du Super Bowl, alors les
playoffs,
c'est rien.
Ah bah oui, mais moi monsieur, je biaise pour aller dans mon sens, je biaise les informations pour prouver que j'ai raison, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est ça.
Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette équipe des Steelers, qui donc n'a pas de problème de quarterback comme on avait pu le craindre à un moment dans l'intersaison. C'est un profil très, très complet de l'équipe. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On peut dire que s'il y a une bonne draft, ça restera une équipe prétendante au titre pour l'année prochaine.
Ah oui, sans problème, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Oui.
Et bien voilà, c'est sur cette note d'espoir pour la communauté Steelers qu'on va finir cette pastille. On vous remercie et on vous retrouve tous les matins avec une nouvelle équipe.